Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
Bonjour.
Écoute, un projet de casino sur Akanisatake inquiète les autorités.
Inquiète plus qu'un peu.
C'est un euphémisme de le dire.
Mais il faut bien comprendre que c'est pas un projet d'Auto-Québec. Hein. C'est tout le contraire même. On pourrait même dire que c'est un projet du crime organisé. C'est-à-dire que ce que notre bureau d'enquête a découvert au cours des dernières semaines, ouais, c'est que certains des membres les plus influents de la mafia montréalaise et des Hells Angels se sont mis ensemble, là, ils se sont mis d'accord, s'entendent bien d'ailleurs, ces groupes de criminels-là, pour bâtir une maison de jeu. Ça sera probablement pas aussi somptueux que le casino de Montréal, mais quand même, se bâtir un endroit avec des tables de jeu, puis des machines à sous sur le territoire de Akanisatake, sur les terrains de celle qu'on surnomme la reine de Akanisatake, Sharon Simon, qui est une trafiquante d'armes et de surtout de stupéfiants notoires sur la réserve. Et donc, on se retrouve avec des membres du crime organisé, dont la plupart ont déjà été condamnés à des peines de prison dans le passé, qui ont un projet de casino. Puis la semaine passée, là, pas plus tard que jeudi, ça commençait à s'activer sur le terrain. Il y avait des pelles mécaniques là, qui commençaient à creuser. Alors,
attends, mais je m'excuse, Jean-Louis, là, ça prend des permis quand même pour aller de l'avant avec ces projets-là. Qui les octroie, ces permis-là? On se rend pas compte qu'il y a plusieurs liens problématiques, parce que là, tu me parles de cette femme-là, là, Sharon Simon, mais elle est liée quand même à d'éminents personnages du crime organisé, là.
C'est ça que ça prend des permis. Si t'as un bar, puis tu vas faire rentrer une seule machine à sous là-dedans, ça, oui, va te prendre toute une vérification d'antécédents de l'Auto-Québec. Bon, alors, on comprend que c'est un projet qui se fait en marge de la juridiction de l'Auto-Québec.
Parce que c'est sur la réserve.
Oui, exactement ça. Quand mes collègues m'ont parlé de cette histoire-là, au début, je me disais, pourquoi les Hells et la mafia ont-ils besoin d'un endroit comme ça? Puis, évidemment, ce que les policiers soupçonnent, c'est que ça les aide à blanchir leur argent. Parce que, tu sais, dans le crime organisé, t'auras beau vendre des millions et des millions de dollars en drogue. Par moi, si t'as pas une façon de réinjecter cet argent-là dans l'économie légale, entre guillemets, ben, tu pourras jamais l'utiliser. Donc, les casinos, ça, c'est connu partout à travers le monde, mais au Canada, il y a eu une commission d'enquête récemment en Colombie-Britannique où on disait exactement ça. Le crime organisé au Canada se sert des casinos pour blanchir l'argent. Et d'ailleurs, l'automne passé, hein, notre bureau d'enquête avait démontré que le casino de Montréal était infiltré par des gens du crime organisé. Certains des plus gros joueurs du casino, dont Stefano Solicito, là, qui est un des dirigeants de la mafia actuelle, qui lui a joué 2 millions de dollars et demi au casino il y a quelques années, là, dans une période de quelques mois. Donc, non seulement ils se servent du casino de Montréal, mais aussi, semble-t-il, bientôt, ils vont avoir leur propre maison de jeu qu'ils vont contrôler de toute façon beaucoup plus serrée.
Puis Stefano Solicito, il est impliqué dans ce projet de construction de casino illicite, entre guillemets?
Il est impliqué, tout comme Martin Robin. Donc, Stefano Solicito, côté mafia. Leonardo Rizzuto également serait derrière, héritier de la famille Rizzuto, bien sûr. La famille mafieuse derrière le projet. Puis des Hells Angels notoires. Martin Robert, qui est ni plus ni moins que probablement le Hells le plus influent au Québec, qui est derrière ce projet-là. Stéphane Plouf aussi, qui est un Hells Angels important. Donc, tout ce beau monde-là semble bien s'entendre, bien collaborer. Comme ils le font d'ailleurs pour les territoires de drogue sur l'île de Montréal, là, dans ce projet-là. C'est pas la première fois que le crime organisé est relié à des projets où on soupçonne qu'ils contrôlent un casino. En République dominicaine, à Saint-Domingue, la capitale, il y a quelques années, là, selon les documents d'enquête policière, un casino qui était contrôlé un peu de façon indirecte là, par la mafia montréalaise. Là, on avait trouvé des transferts d'argent avec un intermédiaire. Ça partait de Montréal, puis ça allait donc en République dominicaine. Mais le casino, donc, n'existe plus, a fermé là-bas, semble-t-il. Donc, Voilà, ça va être à surveiller parce que le maire d'Oka, hein, Pascal Quévillon, juste à côté de Canessa.
Oui, lui, il veut rien savoir de ce projet-là. Il dit qu'il y a déjà de la misère à faire régner la sécurité. Il a accordé une entrevue à ma collègue Sophie Durocher. On peut l'écouter sur le site de Cube et aussi dans l'article qui parle de cette affaire-là du casino à Canessa-Attaqué, parce que lui, pour lui, c'est plus de problèmes là que si ce casino-là voit le jour, s'installe.
Oui, puis il semble que la criminalité aurait déjà augmenté là dans les derniers mois. Puis le maire, lui, ce qu'il demande, c'est ni plus ni moins qu'une escouade de type SWAT. Là. Donc, tu sais, des policiers qui sont lourdement armés pour s'attaquer à ces problématiques-là. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que le grand chef de Canessa-Attaqué, Serge Simon, va penser d'un projet comme ça. Je peux facilement... C'est sûr que c'est probablement très délicat pour lui parce que, bon, c'est sur les terrains de Sharon Simon. Est-ce qu'il peut s'opposer à ce projet-là? En même temps, bon, il ne veut pas trop créer de discorde sur son territoire. Ça risque d'être assez délicat comme question pour les dirigeants de la réserve.
Tu voulais nous parler de l'armée canadienne qui se fait de plus en plus présente à l'étranger, même plus présente qu'au Canada.
On s'est posé la question il y a quelques semaines, c'était ma chronique de samedi, d'ailleurs, puis mon collègue Gilles Richet a fait un super dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, pour répondre à la question suivante, que fait notre armée? Hein, parce que il y a un an, quand malheureusement, les aînés mouraient par dizaines et par centaines, c'est pas drôle, hein, on s'en rappelle, on avait demandé l'armée en renfort, puis tu sais, Justin Trudeau disait, ah, on va y aller, là, mais il faisait un peu la leçon. L'armée, ça sert pas à aller soigner les personnes âgées.
Ben, ça aide les crises humanitaires, excuse-moi, là, ça avait été critiqué, cette sortie-là. Là, l'armée est quand même là pour être présente quand il y a une crise humanitaire et on en vivait une dans nos CHSLD.
C'est ça. Alors là, on s'est demandé, qu'est-ce que l'armée a de plus important à faire qu'à aider nos aînés qui meurent par dizaines, par centaines? Alors, moi, j'ai demandé à l'équipe, allons chercher l'ensemble des missions à travers le monde de l'armée canadienne. Combien ça coûte? Quel pays on est, qu'est-ce qu'on fait là-bas, combien qu'on a de soldats.
Ils vont t'aimer.
Donc, faire un bon tour d'horizon. Et, bon, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans plus d'une quinzaine de missions internationales et que en la dernière année, donc, qui est disponible en termes de données avant la COVID, c'est à peu près 400 et 500 millions de dollars par année que ça coûte ces missions-là. Puis c'est donc beaucoup plus que les missions humanitaires au Canada, hein, parce que les missions humanitaires au Canada, c'est 82 fois plus qu'on dépense en mission à l'étranger qu'en mission au Canada. Moi, ça m'a surpris. Je pense que les chiffres vont être un peu différents parce que quand même, l'intervention pour la COVID, ça a coûté cher au Canada, mais certainement que ça relance le débat. Est-ce que nos soldats devraient nous aider avant d'aider des gens à l'international? C'est une dynamique qui est complexe. Hein?
Mais c'est important, important d'être ailleurs sur la planète quand même, là, pour une géopolitique. Oui.
Ben, d'ailleurs, il y avait l'ancien colonel Michel Drapeau qui soulignait dans le dossier ce week-end, il disait, quand on veut s'asseoir à la table des grands au niveau des discussions économiques, quand on veut donc être un pays respectable et respecté, on n'a pas le choix de s'impliquer. Mais je pense que c'est une question donc il est légitime de débattre quand même. Quand on a besoin d'aide ici, est-ce qu'on peut pas se servir de l'armée? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que 81% des Canadiens pensent que l'armée devrait d'abord aider ici au Canada, contre seulement 67% qui pensent que ce serait davantage important d'aider au niveau international.
Mais en
Vas-y. Mais en fait, c'est peut-être un sens des priorités là, à revoir. Le débat est lancé. Je m'attends pas à ce que ça soit l'enjeu principal de la prochaine campagne électorale. Là, on va plus parler de reprise économique puis de gestion de la crise. Mais l'armée, c'est un des postes budgétaires les plus importants au Canada. Puis, malheureusement, des fois, je trouve qu'on en parle pas assez.
Bon, ils ont quand même été présents quand même dans les CHSLD. Ils ont été présents aussi. Puis sans l'oubli, là, Jean-Louis, il y a eu des inondations en 2019. Ils ont été très présents là aussi. Mais c'est vrai, quand on regarde ça, ça peut être un peu décourageant de voir que l'armée canadienne est davantage présente à l'étranger. Mais nonobstant tout ça, moi, ce que je comprends, c'est que l'armée n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Elle suit les ordres du gouvernement.
Oui, et d'ailleurs, là, c'est une décision politique à tous les niveaux. C'était le ministre Sajjan et le premier ministre Justin Trudeau. Et, tu sais, les militaires qui ont effectivement été déployés personne ne remet en question le travail admirable qu'ils ont fait. Hein. On a eu de multiples témoignages dans des milieux de soins qui ont été absolument ravis par ce que les militaires ont fait. Moi, je pense que c'est absolument, faut absolument pas se questionner sur la bonne volonté ou la qualité, l'efficacité du travail des militaires. C'est davantage une décision de priorité là, au niveau politique à laquelle moi j'aimerais bien entendre le ministre de la Défense nous expliquer pourquoi il pense qu'il est plus important d'aider les autres qu'aider les nôtres.
L'invitation est lancée. On va le lancer, voir s'il va accepter de nous répondre. Jean-Louis Fortin, merci. On continue à suivre les dossiers du bureau d'enquête, évidemment.
À bientôt.